écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Il est 7h, nous sommes le dimanche 28 avril. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Et on se dirige à présent vers Jérusalem, vers le studio Qualita pour le journal de 7h.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progresscom, l'école de commerce qui réinvente votre avenir. Avec 9 BTS et 2 bachelors en marketing et marketing digital, nous vous ouvrons les portes du succès dans le monde du commerce et de la communication. Informations sur progresscom.fr et sur Parcoursup. Progresscom, devenez les leaders de demain.
Radio J, le journal, en direct de nos studios de Jérusalem.
Bonjour, Boker Tov, Daniel Haïk. On démarre ce journal par la situation qui est très tendue dans le nord d'Israël.
Oui, Boker Tov, Nicolas. En effet, peu avant minuit, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et probablement aussi des missiles en direction du territoire israélien. Selon certaines sources, ces roquettes auraient ciblé entre autres une base militaire stratégique située sur le mont Meron. L'immense majorité de ces roquettes ont été soit interceptées par d'hommes de fer, soit seraient tombées dans des terrains vagues sans faire de blessés. Le président du conseil régional de Meron à Galil, Amit Sofer, a déclaré que ce n'est que par miracle qu'il n'y a pas eu de victimes au cours de ces tirs. Nous faisons confiance pour qu'elle repousse les terroristes loin de la frontière, a déclaré Sofer avant d'exprimer le souhait des habitants du Nord de retrouver rapidement leur village. Ils ne reviendront pas sans une garantie sécuritaire, a-t-il affirmé.
Et les tractations en vue d'un accord qui permet la libération des otages qui se poursuivent.
Oui, apparemment, Israël et l'Égypte ont fait parvenir au Hamas une nouvelle proposition d'accord. Selon cette proposition, Israël se contenterait de la libération de 33 otages en échange d'un nombre inconnu pour l'instant de terroristes palestiniens ayant du sang sur les mains, qui seraient libérés donc par Israël. Parmi les clauses de l'accord, Israël pourrait donner son feu vert au retour d'une partie de la population gazaoui dans le nord de la bande de Gaza et de facto mettre fin à la séparation en deux de la bande de Gaza. Ceci étant, haut responsable du Hamas aurait déjà affirmé qu'il n'y avait pas de changement de fond dans la proposition israélienne. Selon lui, cette proposition n'apporte pas de réponse aux exigences du Hamas sur la fin de la guerre et sur le retrait des forces israéliennes de Gaza. Enfin, un officier supérieur de Tzahal a déclaré hier, nous sommes prêts à entrer dans Rafah et en même temps, nous sommes prêts à donner une chance à un accord sur la libération des otages.
Et le Hamas qui a diffusé une nouvelle vidéo montrant 2 otages israéliens.
Oui, il s'agit de Kate Segal et de Omri Meran. Dans cette vidéo diffusée hier après-midi, les 2 otages mentionnent la fête de Pessah et émettent l'espoir d'être libérés avant la journée de l'indépendance. Ils demandent aux manifestants qui descendent dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem de continuer à protester. Selon eux, ce n'est que sous la pression de la rue que le gouvernement israélien acceptera de conclure un marché. On peut légitimement supposer que le message lu par les 2 otages leur a été dicté par les terroristes du Hamas.
Et l'état-major du forum des familles d'otages qui a réagi à cette vidéo, Daniel.
Oui, en affirmant que ces signes de vie représentent la preuve que le gouvernement doit tout faire pour parvenir à un accord sur la libération des otages, peut-être même avant Yom HaTzmaout. Il s'agit, déclare-t-on au sein du forum, de permettre aux otages encore en vie de se reconstruire et à ceux qui ne le sont plus en vie d'être inhumés dignement. Cependant, certains observateurs soulignent que le texte récité par les 2 otages laisse sous-entendre que les manifestations pour la libération des otages et contre le gouvernement servent en fait directement les intérêts du mouvement terroriste.
Et justement, hier soir, des manifestations pour les otages et contre le gouvernement qui se sont tenues à Tel Aviv et Jérusalem.
Oui, à Tel Aviv, les manifestants ont exigé la libération des otages maintenant et une partie d'entre eux ont ensuite bloqué le périphérique d'Ayalon. 5 d'entre eux ont été arrêtés. À Jérusalem, des manifestants marchaient de la place de France, près de l'ancienne résidence du Premier ministre, jusqu'au centre-ville.
Et puis, une nouvelle déclaration de la part du grand rabbin d'Israël qui ne va pas manquer de susciter des réactions, Daniel.
Oui, le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a déclaré hier lors de son cours hebdomadaire du samedi soir, nous avons été attaqués par 13 000 missiles. Nous avons pu assister à de nombreux miracles. Avec l'aide de Dieu, personne n'a été tué. Est-ce que c'est grâce au chef d'état-major, demande le rabbin? C'est grâce aux élèves des yeshivot qui étudient la Torah. Il y a quelques semaines, je vous le rappelle, le Rav Yitzhak Yosef avait déjà entraîné des critiques lorsqu'il avait affirmé dans le même cadre que si l'on devait obliger des élèves des yeshivot à s'enrôler dans le Tzahal, il faudrait alors qu'ils partent à l'étranger.
Et enfin, on termine ce journal d'information par une très belle prestation d'une judokate israélienne.
Oui, il s'agit de l'israélienne Raz Hershko qui a remporté le titre de championne d'Europe dans la catégorie des plus de 78 kilos. Elle a battu en finale la française Julia Tolofia. Quant à la judoka israélienne Inbar Lanir, elle a dû se contenter de la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 78 kilos. Inbar Lanir avait remporté le titre championne du monde dans sa catégorie. Tout cela est de très bon augure en perspective des JO de Paris.
Eh bien, on y croit. Merci Daniel. À tout à l'heure pour la revue de la presse.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec la Prépa Progress Bar-Ilan, votre passerelle pour étudier en Israël. Un programme sur mesure au cœur de l'université Bar-Ilan pour une intégration réussie aux études supérieures en Israël. Plus d'informations sur progress-tlv.com ou au 01 83 80 65 27.
Il fera 24 degrés cet après-midi du côté du Kotel à Jérusalem. De belles éclaircies, un temps ensoleillé avec quelques petits nuages. Voilà, mais ce sera quand même assez clair. Plus de nuages, par contre, du côté de Tel Aviv, où il fera 25 degrés au maximum et un temps qui va se lever complètement à partir de 16 heures. À Paris, ce sera par contre nuageux, mais il fera de plus en plus doux, je dirais. Voilà, après cette petite période de froid, 9 degrés actuellement. Ça restera nuageux, mais il fera 17 dans le courant de l'après-midi.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
Histoire, 28 avril 1945, il y a 79 ans, jour pour jour, un cadavre, et plusieurs même, lynchés par la foule. Benito Mussolini et sa maîtresse Clara Petacchi sont fusillés la veille, le 27, par la résistance à Giulino di Mezzegra, en Lombardie. Mussolini, le Duce, meurt comme il a vécu. Dans la violence. Leurs cadavres sont exhibés sur la Piazzale Loreto à Milan, face à une foule absolument déchaînée. Nous sommes deux jours en 1945 avant le suicide d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. L'alliance avec l'Allemagne, date italienne bien sûr, date de mai 1939 à Berlin, lorsque le ministre des Affaires étrangères allemand et italien, les deux ministres, signent une entente militaire offensive qui s'appelle le pacte d'acier. Le 10 juin 1940, Mussolini est dans les pas d'Hitler. Il dit « Quand le fascisme a un ami, il marche avec cet ami jusqu'au bout ». Mussolini respecte sa parole en déclarant « Après l'Allemagne nazie, la guerre à la France et à l'Angleterre, ce qui représente un coup de poignard pour ces deux pays, la France et l'Angleterre, qui tentent de résister à l'invasion allemande ». Il avait tenté de fuir, Mussolini, en mode Varenne, mais contrairement à Louis XVI, qui avait été reconnu par une pièce à son effigie en 1792 même. Mussolini a un visage plus connu, c'est une autre période, et malgré ce costume d'aviateur allemand dans lequel il s'est maquillé, eh bien il est donc reconnu. Alors il y a évidemment ce 28 avril 1945, il est crocheté à un crochet, voilà, avec sa maîtresse Clara Petacchi et une douzaine d'autres participants, voilà, de ce fascisme à l'italienne. Et il est pendu par les pieds, les corps sont conspués, on urine dessus, on crache dessus, on lance plein de choses. Et ils finissent tellement par être piétinés que lors de l'autopsie, eh bien, on aura du mal à reconnaître le visage du Duce de Benito Mussolini. Alors, je disais que le Führer Adolf Hitler se suicidera deux jours après. Plusieurs hypothèses d'historiens qui se contredisent un peu. Certains disent qu'il aurait eu vent, le Führer, de la façon dont ça s'était terminé pour le Duce. Jan Kershaw, par exemple, le grand historien du nazisme, dit, lui, que c'était absolument impossible qu'il ait toutes les modalités, toutes les façons dont le corps de Mussolini a été conspué et crocheté sur cette Piazzale Loreto, pas loin de la gare centrale de Milan, donc il n'ait pas pu avoir vent de tous ces, de tous les détails, voilà, de la façon dont ça s'est terminé pour Mussolini, donc que ça n'aurait rien à voir avec le suicide qui était déjà prévu, déjà prémédité d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. Voilà, la parole est aux historiens et puis les versions se multiplient. En tout cas, 28 avril 1945, le corps de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacchi sur la Piazzale Loreto à Milan.
Stamattina mi sono alzato, oh bella. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Radio G.
Radio G. Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Radio G.
Une nouvelle venue dans cette chronique du Mage, la responsable de l'auditorium, c'est Sophie Andrieux qui nous raconte le menu des festivités. Alors pour cette semaine, ça n'est pas la résidente habituelle de cette chronique du Mage que nous avons, Sandrine Adas, que vous entendez chaque semaine vous raconter l'histoire et le programme des festivités du Mage. C'est Sophie Andrieux. Bonjour Sophie Andrieux.
Bonjour Nicolas.
Une première pour vous, on retrouvera Sandrine la semaine prochaine. Sophie, vous êtes la responsable de l'auditorium du Mage. Et cette semaine, nous parlons de deux moments importants qui vont se dérouler dans l'auditorium. On commence par le premier, c'est une rencontre ce jeudi à 19h qui aura lieu avec Christopher Silver, historien canadien, spécialiste des musiques arabes et juives et des confluences artistiques en Algérie, Maroc, Tunisie, pour cette grande histoire de la musique qui va de la colonisation à la décolonisation. C'est cela, Sophie Andrieux ?
Tout à fait, Nicolas. Notre invité, Christopher Silver, est professeur d'histoire de culture juive à l'université McGill à Montréal et il est aussi un grand collectionneur de disques. Il vient de publier cet ouvrage passionnant consacré à l'histoire de l'industrie du disque et de la musique en Afrique du Nord à travers une technologie, le 78 tours, et ses nombreux acteurs juifs, musiciens, chanteurs, chanteuses, paroliers, producteurs dont il soulève le rôle prépondérant. Il raconte en filigrane l'histoire de ces pays, de la décolonisation, des mouvements indépendantistes et aussi de ces relations judéo-musulmanes tissées autour de la musique. On croise des personnages incroyables, des vedettes, sans doute connues de certains de vos auditeurs, qui incarnent cette histoire comme le légendaire musicien Lili Labassi, Sami El Maghribi ou l'immense Salim Halali.
Alors, et Chris, donc cet historien, Christopher Silver, qui convoquera également lors de cette rencontre intitulée, je le rappelle, « Musique arabe, musicien juif, une place importante à l'émancipation de la femme » qui accompagne également l'histoire de cette musique.
Les femmes jouent en effet un rôle très important dans cette histoire, notamment les chanteuses.
Alors, et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait, je crois, d'une artiste de cette époque, en fond sonore.
Voilà, qui s'appelle Louisa Tunzia. Christopher Silver donc met l'accent sur deux figures majeures de la musique juive au Maghreb. Il s'agit de Habiba Msika, qui aujourd'hui serait qualifiée de superstar de la musique et qui a connu une vie des plus romanesques et un destin tragique à Tunis. Et Louisa Tunzia, qui est en quelque sorte sa successeur, icône de la chanson en Tunisie. Toutes deux furent des personnalités extrêmement fortes qui ont révolutionné à la fois la musique mais aussi la société dans laquelle elle vivait.
Alors, deuxième temps fort dans l'auditorium, ce sera dimanche prochain, toute la journée, à partir de 10h. Là, ce sera des rencontres, des colloques, parler, chanter autour de l'objet et de la mémoire liée à ces objets. En yiddish, il y a ce mot « shmonses » qui signifie quoi exactement ?
Alors, le mot « shmonses » signifie plaisanterie, sourire, blague, bavardage aussi, bêtise, ainsi que babiole.
Ben, c'est un mot, oui. Je m'en sais ce qu'on a entendu dans son enfance. Si on a eu la chance, moi c'était mon cas, d'avoir des grands-parents polonais avec cet accent délicieux yiddish. Et alors ces objets, ils ont une place importante puisqu'ils s'inscrivent dans une histoire tragique de l'exil, du déplacement. Il y a les instruments de musique, mais également le verre et le livre.
Exactement.
Entre autres.
Ce sont vraiment des petits objets qui restent dans les familles et qui traversent les générations. Ce sont des petits objets un peu de rien du tout, sans valeur. Ça peut être par exemple un cendrier, et je pense notamment à celui appartenant à Caroline Eliashev, rapporté sur le chemin du retour de Ravensbrück par sa tante, ou un bougeoir aussi, qui est l'unique témoin du passé de la famille de Maya Branmi. Ils sont porteurs d'une histoire familiale en proie, comme vous venez de lire, à la grande histoire, à la perte, à l'exil, à la survie, à la transmission. Et l'idée de cette journée, qui est en fait un colloque, mais avec des interventions un peu particulières, chantées, contées, est de faire parler ces familles à partir de l'histoire d'un objet.
Et chanter, parce qu'il y aura notamment Talila. Hein, voilà.
Exactement, il y aura notamment Talila et ses musiciens.
Je me souviens de cette histoire, Simone Veil, c'est Marceline Laurie dans Evans qui disait, dans tous les restaurants dans lesquels nous allions, par la suite, elle piquait une petite cuillère.
Oui.
Voilà, dans les grandes maisons, les 2-3 étoiles. Donc ça, c'était un chemin de cesse particulier.
Exactement.
Alors, qui s'occupera de ces colloques et de ces rencontres, autre que Talila ?
Alors, c'est Céline Masson qui est aux manettes de ces colloques singuliers. Elle est psychanalyste et professeure des universités. Tous les 3 ans, Céline Masson nous propose d'explorer un nouveau sujet à travers un mot yiddish. Et donc, nous concevons ensuite ensemble une journée que nous aimons qualifier de colloque parler chanté. Et autour de Shmonses se tisseront les voix de psychanalystes, d'historiens, les chansons de Talila, comme on vient de dire, accompagnées par ses musiciens, et aussi un film pour évoquer la mémoire par l'objet.
Eh bien, tous hommage à l'auditorium, on va aller écouter ces jolis Shmonses. Merci Sophie Andrieux, très belle première.
Merci Nicolas.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raphaël.
7h15, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio J. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otage, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans, dans ce film scénarisé par le Hamas. Les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation à Césarée hier soir près du domicile du Premier ministre israélien. Manifestation similaire à Tel Aviv avec des milliers de personnes ou encore dans le nord à Pardes-Hanakarkour près de Hadera. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais n'a pas progressé pour l'instant. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux 2 navires de cette expédition. Acheminer davantage d'aide à Gaza, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire. Un projet porté par Jérusalem et Washington. Saal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. Le but est de permettre à plus de navires d'amarrer pour acheminer des aides par voie maritime. En France, après la fin du blocage de Sciences Po Paris, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Des étudiants soutenus par la France Insoumise ont organisé des blocus à Sciences Po pour réclamer notamment la fin des partenariats avec des entreprises et établissements israéliens.
Merci Eva pour ce rappel des titres.
Le 6-9.
Nicolas Raphaël.
On se retrouve dans quelques courts instants, vous avez l'habitude. 7h20, ce sera la chronique de Guy Konopnicki qui va nous parler de la semaine à Sciences Po. 7h40, Eva, vous voulez nous dire un petit mot peut-être de ce qui va se tramer avec l'invité de la rédaction, le thème?
Oui, ce sera le père Jean-Christophe Lesourd, directeur du Service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France qui co-signe une tribune dans La Croix avec le père Patrick Desbois, une tribune où il dit aux Juifs, vous n'êtes pas seuls, on en parlera tout à l'heure avec lui.
Et on vous rappelle, ce sera jeudi prochain, le jeudi 2 mai, une conférence exceptionnelle. Elle était venue ici à Radio J il y a 2 semaines, Laura Blajman-Kadar, Croire en la vie, autour de son livre, le témoignage bouleversant d'une survivante du massacre du 7 octobre. Ce sera le jeudi 2 mai à la synagogue Berit Shalom, 18 rue Saint-Lazare, à 19h30, Paris 9e. A tout de suite sur Radio J, on retrouve Guy Konopnicki dans moins d'une minute.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal.
7h20, écrivain, chroniqueur, bien sûr, c'est Guy Konopnicki qui revient sur les rassemblements antisionistes de Sciences Po Paris cette semaine pour vous. Bonjour Guy.
Bonjour. Des mains rouges dans la rue Saint-Guillaume. Des étudiants, ou présumaient-elles, ont manifesté en imitant le geste des assassins de deux Israéliens qui, à Ramallah, avaient fièrement montré leurs mains rougies du sang des Juifs. C'est avec ces manifestants que la direction de l'École des sciences politiques a accepté de négocier pour mettre fin à l'occupation de ces locaux. En fait, il n'y a pas eu de négociation, de réunion où chacun fait valoir son point de vue, où l'on cherche un compromis. Non, la direction de l'établissement a cédé à la force sans que l'on soit certain que tous les manifestants étaient bien des étudiants régulièrement inscrits à Sciences Po. Les images des chaînes de télévision nous montrent une masse de jeunes gens que viennent soutenir des députés LFI. Et ces manifestants sont bien décidés à en découdre, quitte à saccager un bâtiment universitaire, un bien public financé et entretenu par l'État. Face au risque de blocage de l'école, préjudiciable aux étudiants qui y font réellement leurs études, risque aggravé par la menace de dégradation, les responsables de Sciences Po ont choisi de tout céder. Ainsi, des partenariats construits depuis des années par des enseignants français avec des enseignants des universités d'Israël devront être réexaminés à l'aune des fantasmes de jeunes gens qui ne connaissent le conflit israélo-palestinien que par la propagande des islamistes et de l'extrême gauche. Quel mépris pour le travail universitaire des professeurs qui ont étudié ce que l'on appelle les sciences politiques, qui ont confronté leur point de vue avec des professeurs israéliens, voient leur travail mis en cause parce qu'une poignée d'énergumènes a occupé des salles de cours et déployé un drapeau palestinien sur la façade de l'école. On ne saurait mieux renier l'esprit de l'université et de l'école des sciences politiques. Quelques jours d'agitation, des invectives, des mensonges répétés suffisent donc pour obliger les enseignants responsables des échanges avec les universités israéliennes à se soumettre à une véritable police de la pensée. Des comités partisans auront ainsi le droit de juger des universités d'un pays ami. Ils décideront que tel ou tel intellectuel israélien n'est qu'un suppôt du sionisme, mais qu'un autre, à certaines conditions, peut être fréquentable, non en raison de la qualité de ses recherches et de son enseignement, mais parce qu'il aura exprimé une opinion opposée à celle de son gouvernement. Sachant que ces comités Palestine fondent leur action sur un mensonge, selon lequel la terre d'Israël était un pays musulman avant d'être colonisé par les sionistes, la base des évaluations acceptées par Sciences Po est déjà fausse. Ces évaluations par lesquelles des étudiants jugeraient les universités d'un État démocratique sont en droit inacceptables. Pour un établissement qui enseigne le droit, c'est un comble. Comment des universitaires israéliens, dont beaucoup sont de renommée mondiale, pourraient-ils accepter de se soumettre au jugement de gamins fanatisés et le plus souvent incultes qui ne savent pas de quel fleuve et de quelle mer on parle dans leur slogan ? En retour, les enseignants et les étudiants de Sciences Po devront se priver des connaissances portées par les Israéliens et surtout ne pas se confronter à des points de vue qu'un quelconque comité ne veut pas entendre. On ferait donc la loi de la prestigieuse École des sciences politiques de Paris en brandissant des mains rougies du sang des Juifs. On dicterait une analyse politique de la guerre de Gaza fondée sur l'apologie du terrorisme, sur le refus de reconnaître la nature du Hamas et la monstruosité de l'agression du 7 octobre. On enseignerait une nouvelle définition du génocide rejetée par la Cour internationale de La Haye, qui n'a pas retenu les accusations portées contre Israël. On apprendrait à Sciences Po qu'il était légitime de massacrer les participants du festival Nova, que l'on peut violer des femmes juives quand on appartient à un peuple opprimé, et assassiner les enfants d'un pays dominant dont on ne reconnaît pas la légitimité. Mais surtout, l'accord passé avec les émeutiers légitime la violence au sein de l'enseignement. En ce lieu voué à la connaissance et à la réflexion, à l'écoute des maîtres et à la discussion, il suffit de quelques braillards menaçants pour changer les règles. Et il s'agit des sciences politiques. Elles sont belles, les sciences politiques, quand la violence bafoue le droit pour imposer la loi des terroristes en réécrivant l'histoire avec des mains rouges du sang des juifs. En vérité, l'histoire nous a appris que les pogroms survenaient toujours pendant la semaine de Pessah, et c'est bien un pogrom symbolique qui s'est déroulé à Sciences Po. Rien ne manquait, pas même l'accusation de crimes rituels et le complot des sages de Sion. C'est ainsi. Terminez bien cette semaine de Pessah, et à la semaine prochaine, et le Shana Abba Yerushalayim.
Merci Guy Konopnicki, 7h26, tout de suite le Zoom Israël.
Radio J, le 6-9,
Nicolas Raffal.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J.
Et comme tous les dimanches matins, on retrouve notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, pour son Zoom Israël. Pascal, avec de nouvelles tensions dans le nord cette nuit, et le Hezbollah qui a tiré 26 roquettes contre Israël.
Oui, il y a encore des bombardements intensifs du Hezbollah sur le nord d'Israël au cours du week-end. Vendredi soir, 30 roquettes ont visé le nord du Golan. Et hier soir, 26 roquettes tirées en direction de Meron en Haute-Galilée. Les attaques n'ont pas fait de blessés. Vendredi après-midi, à Ramleh, près de Tel Aviv, une jeune fille a été sérieusement blessée dans une attaque à l'arme blanche. Le terroriste, un habitant arabe de la ville, a été abattu par un civil armé. Le ministre de la Sécurité nationale s'est rendu sur les lieux. C'est en repartant que la voiture d'Itamar Ben-Gvir a provoqué un accident en grillant un feu rouge. Le ministre a été légèrement blessé, ainsi que le conducteur de la voiture avec laquelle son chauffeur est entré en collision. Et puis, hier soir, le Hamas a publié des preuves de vie de deux autres otages. Kit Sigal, 64 ans, du kibboutz Kfar Aza, dont l'épouse Aviva avait, elle, été libérée lors de la trêve de fin novembre, et Omri Miran, 47 ans, du kibboutz Nahal Oz. Sur les deux vidéos, les deux hommes s'adressent directement à leur famille, sans lire des exigences concrètes du Hamas. Mais le message de l'organisation terroriste n'en est pas moins clair. Elle cherche à faire pression sur l'opinion publique israélienne pour qu'elle pousse à son tour le gouvernement à accepter un accord aux conditions du Hamas et empêcher l'opération de Tsahal programmée contre la ville de Rafah. Vendredi, une délégation égyptienne conduite par le ministre des Renseignements, Abbas Kamel, est venue présenter aux dirigeants israéliens une nouvelle proposition qui prévoit la libération d'un premier groupe d'otages en échange du retour d'une partie de la population palestinienne déplacée vers le nord de la bande de Gaza. Dans une seconde phase, l'ouverture de négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent sans qu'Israël doive s'engager préalablement à la fin de la guerre. L'Égypte a repris la main dans la conduite des négociations, espère encore qu'Israël renoncera à son offensive à Rafah, tient la libération des otages, ce qui rejoint donc la position du Hamas, qui veut absolument conserver son bastion du sud de Gaza sur la frontière avec l'Égypte, car c'est par là qu'il pourra continuer à faire entrer des armes. Les Égyptiens ont également transmis leur proposition au Hamas et lui ont fait savoir qu'Israël n'était pas opposé sur le principe aux conditions qui lui ont été présentées. Mais les déclarations de plusieurs responsables de la direction extérieure du Hamas indiquent que l'organisation terroriste, en tout cas publiquement, maintient toujours ses exigences maximales, à savoir la fin de la guerre, le retrait total des troupes israéliennes de Gaza et le retour de toute la population déplacée, ce qui signifie bien sûr le retour du contrôle militaire et politique du Hamas sur l'ensemble du territoire côtier. La réponse du Hamas devrait être connue dans les prochains jours. Et l'organisation terroriste compte aussi sur la pression internationale sur Israël, alors que selon le New York Times, le président des États-Unis pourrait envisager l'embargo sur certains armements si Israël maintient son plan d'une offensive de grande ampleur à Rafah.
Merci beaucoup Pascal Zonshine. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve tous les matins sur Radio G, également dans le 6-9 présenté par Ilana Ferradian et dans le grand journal de Steve Nadjar. Toutes vos chroniques sont à podcaster sur radioj.fr.
Radio G. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez 7h30, bienvenue sur Radio J pour la revue de la presse, comme tous les dimanches, comme tous les matins. Daniel Aïk.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem.
Bonjour Boker Tov, Daniel Aïk. On commence cette revue de la presse par les manchettes des quotidiens israéliens de cette veille de seconde fête de Pessah, des manchettes consacrées aux tractations sur la voie d'un possible accord de libération d'otages.
Oui, effectivement, Nicolas, lors de la décision approche qui prend en manchette ce matin le Israel Hayom, qui souligne qu'Israël a fait une proposition, on va dire plus généreuse, que l'on attend toujours la réponse du Hamas à la proposition israélienne. Le Israel Hayom publie ce titre sur une photo de la manifestation d'hier à Tel Aviv en faveur de la libération des otages, et en sous-titre une mise en garde de la part de Washington. Joe Biden pourrait limiter l'acheminement de certaines armes à Israël si Israël devait lancer une véritable offensive massive dans la ville de Rafah. La manchette du Yediot Aharonot est relativement floue à ce propos. Israël pourrait accepter des conditions qu'il a refusées lors des précédents rounds. De quoi s'agit-il? Selon certaines sources impliquées dans les pourparlers, Israël pourrait revoir à la baisse le nombre d'otages qu'il a tués dans la première phase d'un accord. On parle de 33 otages au lieu des 40 il y a de cela plusieurs semaines. Par ailleurs, Israël pourrait renoncer à la séparation entre deux de la bande de Gaza qu'il a initié au milieu de la guerre. Et pour illustrer le titre du Yediot Aharonot, le journal nous montre ce matin la photo des deux otages qui figurent sur la dernière vidéo envoyée par le Hamas, photo de Omri Meran et de Kate Segal, qui demandent dans cette vidéo « Faites-nous sortir d'ici vivants ».
Et Daniel, ce n'est qu'en page intérieure que l'on peut décoder certaines des clauses de ce futur ou d'un futur accord.
Oui, effectivement, selon l'Israël Hayom, la proposition envoyée conjointement par Israël et l'Égypte au Hamas parle de la libération donc de 33 otages en échange de plusieurs semaines de cessez-le-feu, d'un retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza et d'une libération en échange donc de ces 33 otages, d'un nombre pour l'instant inconnu de terroristes détenus par Israël ayant du sang sur les mains. Ce ne serait que la première phase d'un accord qui en comporterait plusieurs et qui aboutirait finalement à la fin de la guerre. Certains ministres de la droite du gouvernement estiment que Benjamin Netanyahu a l'intention de présenter ce plan au cabinet restreint pour la sécurité nationale lorsque celui-ci aura été validé par le Hamas, pas avant. Et alors, il sera impossible de revenir en arrière. Le Mari souligne que Benjamin Netanyahu est préoccupé par une éventuelle inculpation de la Cour pénale internationale de La Haye. Et c'est ce qui expliquerait actuellement son souhait de parvenir rapidement à un accord.
Et pendant ce temps de salle qui se prépare toujours à une opération militaire dans Rafah.
Oui, les journaux et les sites d'information affirment que l'armée est fin prête à lancer cette opération lorsqu'elle recevra le feu vert de l'échelon politique. Au sein de l'armée, on semble cautionner les termes d'un accord avec le Hamas et on affirme nous serons capables de reprendre les combats même après, si cela est nécessaire. Enfin, les journaux soulignent que la construction du port maritime provisoire à Gaza a débuté. Celui-ci pourrait être opérationnel dans une semaine.
Qu'écrivent, Daniel, les éditorialistes autour de ces tractations et de ce possible accord ?
Chéri David Cohen écrit dans le Israel Hayom, un accord qui mettrait fin à la guerre dans Gaza marquera aussi la fin du gouvernement de Benjamin Netanyahu. La droite pourrait alors envisager de se désigner un leader à la place de l'actuel Premier ministre. Bezalel Smotrich a déjà mis en garde Benjamin Netanyahu, vous n'avez pas de mandat pour un accord au rabais concernant la libération des otages. Quant à Nechama Doeck, elle voit poindre à l'horizon les journées nationales du Yom HaShoah,
Guillaume Azikaron et Guillaume Assaoud et l'Esther, qu'elles seront pour Benjamin Netanyahou l'occasion pour lui de faire son mea culpa et d'endosser enfin, écrit-elle, sa responsabilité dans les événements terribles du 7 octobre.
Le Maariv qui publie une interview de l'ancien chef du Shin Bet, Yaakov Peri.
Oui, dans cet entretien, Yaakov Peri, qui a également été ministre dans les gouvernements israéliens, déplore le fait que le gouvernement ne prenne pas de décision concernant l'après-guerre dans Gaza. Selon Peri, cela renforce le Hamas et donne l'impression d'une instabilité de la part d'Israël. À propos des otages, Yaakov Peri reconnaît qu'une solution interviendra seulement si Israël est prêt à faire de douloureuses concessions. À propos de la situation sécuritaire, il affirme qu'une situation de multifront sur fond de division politique interne en Israël est pour lui très problématique.
Et puis toujours dans le Maariv de ce matin, une analyse sur la situation de ce qui se passe dans les campus américains.
Oui, on en a parlé au cours des derniers jours et il s'agit d'une analyse du lieutenant-colonel Amit Yagour qui révèle que les manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes qui se déroulent actuellement sur ces campus américains coûtent beaucoup d'argent et elles seraient financées en partie par des juifs et des israéliens anti-sionistes. Et il avance le nom du milliardaire George Soros qui a déjà été avancé dans ce genre de situation. Yagour fournit même des sommes payées aux étudiants pour participer à la protestation anti-israël, des sommes qui pourraient se chiffrer en centaines, voire même parfois milliers de dollars.
Enfin, après l'accident de vendredi au cours duquel le ministre Itamar Ben-Gvir a été blessé, les médias et les quotidiens semblent s'en donner à cœur joie.
Oui, le Israel Hayom se fait l'écho en première page de la colère de la police israélienne après que le chauffeur du ministre Itamar Ben-Gvir ait enfreint la loi en brûlant un feu rouge. Le Yediot Aharonot titre « Il passe au rouge » en confirmant que c'est bien le véhicule du ministre de la Sécurité intérieure qui a enfreint la loi en passant au rouge peu après être sorti de la zone où s'est produit un attentat vendredi dans la ville de Ramleh. Les sites d'information soulignent que le chauffeur du ministre qui conduisait est considéré comme un délinquant de la route qui possède un lourd casier judiciaire d'infraction au code de la route et qu'il serait un casier qui serait, paraît-il, assez impressionnant. Le site N12 cite la police israélienne qui admet que si le véhicule du ministre a brûlé un feu rouge, il s'agit là d'une grave infraction. Dans l'entourage du ministre, on se justifie, ou on tente de se justifier en affirmant qu'il s'agissait d'un déplacement en fonction qui nécessitait une forme de priorité. Dans le Yediot Aharonot et Nafshi ne prend pas la peine de s'intéresser à la santé du ministre qui a plusieurs côtes brisées et qui est toujours hospitalisé à l'hôpital à Jérusalem. Et il écrit ce matin: cela fait plus d'un an que l'État d'Israël subit le fossé grotesque entre le titre du ministre de la Sécurité intérieure et l'homme qui, plus que tout autre en Israël, représente un véritable danger pour notre propre sécurité. Fin de citation. Fin de cette revue de la presse également.
Eh bien, merci Daniel Haïk pour cette revue de la presse tout à fait complète. Belle journée.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Radio J.
On va se retrouver dans quelques courts instants, dans moins de deux minutes, avec l'invité de la rédaction, le père Jean-Christophe Lesourd, directeur du Service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Puis ce sera le point diplomatique hebdomadaire cette semaine avec Yigal Palmore. Yvan Attal sera l'invité à 8h45 des Enfants de la République, l'émission de Frédéric Aziza. Et puis tiens, on vous invite, pourquoi pas, enfin on vous invite à y aller, bien sûr, pourquoi pas au théâtre, découvrir la pièce, parce que ça faisait 50 ans qu'elle n'avait pas été remontée, la pièce Dreyfus de Jean-Claude Grimbert à la Cartoucherie. Ça se joue les samedis et les dimanches à 13h30. Elle avait été montée en 1974 et donc 50 ans qu'elle n'avait plus été jouée à Paris. Il y a deux pièces de Jean-Claude Grimbert à aller voir en ce moment au théâtre. Il y a celle-ci, Dreyfus à la Cartoucherie, et il y a Moment au théâtre de la Scala avec Hervé Pierre et Clotilde Mollet. C'est absolument délicieux. C'est Jean-Claude Grimbert et donc c'est au théâtre. À tout de suite avec Jean-Christophe, le père Jean-Christophe Lesourd.
Les Enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les Enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J. C'est uniquement sur Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
7h40 sur Radio J, je me suis trompé. Christophe, le père Christophe Le Sourd est avec nous ce matin.
Père Christophe Le Sourd, bonjour.
Bonjour Eva.
Vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la conférence des évêques de France. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Et vous signez avec le père Patrick Desbois, qui s'est notamment fait connaître sur la Shoah en Ukraine, tuerie de masse de juifs par balle, votre tribune qui est intitulée « À nos pères dans la foi, vous n'êtes pas seul ». Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont connu une hausse exponentielle en France, mais aussi dans le monde. S'en sont suivis des marches contre l'antisémitisme. Plus de 6 mois ont passé depuis ces massacres antisémites, eux, commis par le Hamas en Israël. Pourquoi s'est fait sentir aujourd'hui pour vous la nécessité de vous adresser aux Juifs pour leur dire « Vous n'êtes pas seul ».
Alors tout d'abord, cette tribune a été co-signée également par Louis-Marie Coudray, le frère Louis-Marie Coudray, qui est le prieur d'Abou Gosh.
D'accord.
Et il était mon prédécesseur. Et ça nous a paru très important à Patrick Desbois, à Louis-Marie et à moi, de montrer que les directeurs successifs du Service national pour les relations avec le judaïsme étaient tout à fait en phase pour dire à nos frères juifs « Vous n'êtes pas seuls ». Et cette démarche s'inscrit également dans ce qui s'est passé le 1er février 2021 à la Conférence des évêques de France. Ce jour-là, le Conseil permanent, en la personne du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a remis solennellement à Raïm Korsia, le grand rabbin de France, à Francis Khalifa, qui était à l'époque le président du CRIF, et puis également à Monsieur Joël Mergui, qui était président à l'époque du Consistoire central, une déclaration exhortant non seulement tous les catholiques, mais tous nos concitoyens français à lutter contre tout antisémitisme, quelle que soit sa forme, religieuse ou politique, et à lutter contre l'anti-judaïsme chrétien. C'est dire combien les évêques de France sont très conscients de ce qui est en train de se passer sur le continent européen et de manière singulière en France.
Père Christophe Le Sourd, c'est très important ce dont vous venez de parler parce que effectivement, on le voit hein, depuis le 7 octobre, ça a ouvert malheureusement les vannes de l'antisémitisme. L'antisémitisme aujourd'hui a évolué, il a muté. D'ailleurs, vous le dites dans votre tribune, il est polymorphe. Il y a malheureusement une époque où l'antisémitisme était chrétien. Est-ce que dans ce que vous voyez se déployer aujourd'hui, vous en voyez des traces qui vous alerte ou alors d'après vous, c'est totalement différent?
Comme vous le dites, nous avons utilisé le mot polymorphe et c'est vrai, si vous voulez, que si nous avons insisté sur la lutte contre l'antisémitisme et l'anti-judaïsme chrétien, c'est parce que nous mesurons que au moment de la pandémie, nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons vu des vidéos complètement délirantes qui reprenaient tous les clichés de l'antijudaïsme chrétien. Et nous sommes dit, là, c'est de notre responsabilité de lutter contre cet aspect de l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons publié, il y a 6 mois, un livre qui s'appelle « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Et ce livre, préfacé par le grand rabbin Raïm Korsia, avec un avant-propos du président de la Conférence des évêques de France, est un manuel à la disposition de tous les éducateurs chrétiens, de tous les prédicateurs, pour montrer que, voilà, là où on est, il faut déconstruire l'antijudaïsme chrétien, anti-judaïsme chrétien qui a été le terreau d'un antisémitisme qui a été jusqu'à conduire au nazisme.
La question que je vous posais, c'était, là, vous parliez du Covid. Aujourd'hui, dans ce qui se déploie, qu'est-ce que vous voyez qui peut vous alerter en tant que chrétien concernant l'antisémitisme ?
Je pense que actuellement, ce qui est en jeu, c'est le basculement de la démocratie vers l'ochlocratie.
C'est-à-dire ?
Ce que démontre l'historien Polybe, il y a de très nombreux siècles, c'est les cycles politiques. La démocratie, c'est le peuple souverain qui parle, qui s'exprime. L'ochlocratie, c'est la foule qui hurle. Et nous voyons bien qu'actuellement, dans les rues et dans les réseaux sociaux, c'est la foule qui hurle. C'est la clameur de la foule, pour reprendre une phrase de Raymond Aron, écrite dans les années 30. C'est la clameur de la foule et c'est éminemment inquiétant. Et on voit bien que ce sont des convictions et des attentes parfois extrêmement contradictoires qui vont se retrouver dans un phénomène de masse. Et on voit également la désignation d'un bouc émissaire, et en cette occurrence, à nouveau, ce sont les Juifs. Et donc c'est éminemment inquiétant.
Éminemment inquiétant. Vous avez cité les années 30. À votre avis, on en est là ?
Oui, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons que la grande difficulté, c'est de partager un réel commun. Moi, je commence à être un vieux monsieur, j'ai connu les années 60, et tous les soirs, qu'est-ce qui nous rassemblait ? C'était le journal télévisé. Ce qui faisait que le lendemain, les uns et les autres évoquaient quoi ? Un réel commun, qui bénéficiait, entre autres, de l'expertise des journalistes. Or, aujourd'hui, les uns et les autres, et surtout les jeunes, vont se renseigner, s'instruire sur les réseaux sociaux. Et le phénomène des réseaux sociaux, c'est pas je crois ce que j'ai vu, c'est je veux voir ce que je crois. Et par conséquent, les gens ne veulent voir que ce qui les confirme dans leurs convictions. Et par conséquent, comme le avait très bien décrit René Girard, c'est la montée aux extrêmes. Et donc nous sommes dans cette situation-là. Donc à la fois, nous avons des éléments communs par rapport aux années 30, et là, il y a une véritable spécificité liée précisément aux nouveaux instruments de communication.
Il y a eu ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours, des blocus à Sciences Po, d'étudiants se disant pro-palestiniens, mais en réalité, ça ressemblait à des manifestations plutôt anti-sionistes, notamment avec des slogans contre l'existence d'Israël, le fameux « From the River » tout aussi, qu'on connaît malheureusement très bien. Vous dénoncez dans votre tribune une haine vertueuse, insidieuse contre les Juifs. C'est ce que vous avez vu à l'œuvre, à Sciences Po ?
Cette formule, elle est d'Alain Finkielkraut, dans son très beau livre « Pêcheur de perles ». Et il l'a réutilisé à plusieurs reprises, tant que nous l'avons mis entre guillemets. Oui, une haine vertueuse. C'est ce qui est en train de se mettre en route avec des mécanismes idéologiques extrêmement mortifère. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser la charge. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de personnes considèrent qu'il est tout à fait possible, au nom d'une solidarité tout à fait légitime en soi, tout à fait légitime vis-à-vis de populations, de trouver le moyen de pouvoir haïr une autre population, et en cette occurrence, nos frères juifs.
Inverser la charge à l'inversion du bourreau et de la victime, c'est ce qui est à l'œuvre, d'après vous, actuellement. Vous évoquez dans cette tribune, vous dites, il est légitime d'évoquer la responsabilité de l'actuel gouvernement israélien. Comment parler de ce conflit meurtrier sans nommer aussi le mouvement terroriste Hamas et les choix stratégiques de sa branche armée, les brigades Al-Qassam. Impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. La phrase à retenir là-dedans, c'est impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. Et pourquoi vous insistez là-dessus ? Les otages sont oubliés, d'après vous, d'après ce que vous voyez autour de vous. C'est ça aussi que vous voulez dénoncer ?
Ce que nous voulons, c'est sensibiliser au maximum, en particulier, puisque ça a été publié dans le journal La Croix, nos concitoyens catholiques, de dire, bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dira, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Donc, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages, mais ne fût-ce que cela, pensez à nos concitoyens français.
Il aurait dû y avoir des choses devant les mairies. Comme
bien entendu, comme ça s'est passé lorsqu'il y a eu des journalistes. Enfin voilà, on a tous en mémoire de grands élans de solidarité légitimes vis-à-vis de nos concitoyens retenus, détenus, otages.
Et d'après vous, c'est de l'antisémitisme larvé, ça ?
C'est par à nouveau le biais, comme on voit bien, comme on a le fauné de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Voilà. Et donc on voit bien que le grand danger, c'est un basculement, c'est-à-dire ça n'est plus soutenir la cause palestinienne, mais c'est soutenir le principe de la disparition d'Israël.
Merci beaucoup, Père Christophe Lesourd, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Merci, bon dimanche à vous.
Merci à vous.
Merci, 7h50. Un autre oxymore, peut-être cher à Alain Finkielkraut, nous sommes seuls, mais ensemble. À tout de suite pour le point diplomatique.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raffal.
Le point diplomatique hebdomadaire avec Yigal Palmore, ma chère Eva.
Yigal Palmore, diplomate et directeur du département international de l'Agence juive. Bonjour Yigal Palmore. Ah, nous devons être en direct avec Yigal Palmore. Diplomate donc et directeur du département international de l'agence juive pour parler de la situation notamment dans le Nord. On vous a retrouvé, Yigal. Bonjour.
Bonjour, Eva.
La tension dans le Nord d'Israël avec cette nuit encore le Hezbollah qui a tiré 26 roquettes. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est au Liban aujourd'hui. Que faut-il espérer de cette visite ?
Eh bien, très franchement, et même s'il faut se féliciter des efforts diplomatiques de la France pour apaiser la situation, si on veut rester très réaliste, il ne faut pas espérer grand-chose, parce que le sort de cette tension, pour dire les choses très délicatement, sur la frontière nord d'Israël ou la frontière sud du Liban, le sort de cette tension, donc de cette violence, ne se jouera pas à Beyrouth. Ce n'est pas une décision qu'a prise le gouvernement libanais de s'attaquer à...
Ah, on vous a perdu, on a perdu la communication sonore avec Yigal Palmore. Vous êtes là ? Ah, apparemment, on a perdu la communication avec Yigal Palmore qui nous parlait donc de la tension dans le Nord après ces nouveaux tirs de roquettes du Hezbollah. On évoquait avec lui la visite du ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, qui se rend au Liban aujourd'hui, qui se rend au Liban à propos donc de ces tensions, de ces violences dans le Nord. Stéphane Séjourné, il va avec un accord qui concerne donc les otages. Stéphane Séjourné va rester sur place et va s'entretenir avec des responsables à Beyrouth. Il est donc au Liban aujourd'hui. Nous devions aussi évoquer avec Yigal Palmore la situation des otages. Yigal Palmore qui doit donc également évoquer avec nous la situation des otages israéliens. Et puisqu'il y a eu une nouvelle vidéo de propagande qui a été diffusée hier, notamment par le Hamas et les chaînes israéliennes, concernant la situation dans le Nord, le ministre des Affaires étrangères dit aller à Beyrouth pour éviter une guerre qui, malheureusement, sur le terrain existe déjà pour les Israéliens, puisque 80 000 Israéliens n'ont pas pu rentrer chez eux depuis depuis le 7 octobre et se trouve donc actuellement réparti dans différents logements en Israël, notamment des hôtels ou des amis qui les accueillent. Ça fait maintenant depuis le mois d'octobre. Yigal Palmore, on vous a retrouvé.
Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on va reprendre là où on a laissé la chose. Je disais que ça ne va pas se jouer à Beyrouth, puisque ce qui se passe en ce moment, en fait, a commencé à Gaza. Le Hezbollah a rejoint le Hamas dans cette attaque tout à fait non provoqué, et en fait le Hezbollah conditionne tout apaisement de la situation au Liban à la situation à Gaza. On fait donc face à deux sbires iraniens qui sont plus ou moins gérés, entraînés, financés par l'Iran, qui se donnent la main en fait à Gaza et au Liban. Et le vrai conflit, c'est avec l'Iran, et sur le terrain ça se joue plutôt à Gaza quand le Hezbollah se donne le rôle d'auxiliaire. Donc ça ne va pas se jouer à Beyrouth, et il faut quand même tout faire pour que le Hezbollah soit dissuadé d'élargir le conflit.
Dissuadé d'élargir le conflit, les termes employés par la France, c'est que Stéphane Séjourné y va pour éviter une guerre. Mais cette guerre n'existe-t-elle pas déjà pour les 80 000 Israéliens qui ont dû partir des zones d'où sont tirées les roquettes et qui n'ont pas pu rentrer chez eux depuis? C'est bizarre dans cette perspective de parler d'éviter une guerre. Pourquoi ces termes employés par Stéphane Séjourné?
Eh bien, vous avez tout à fait raison. La guerre est déjà bien installée, malheureusement, puisque sur toute la frontière nord d'Israël, les kibboutzim, les moshavim, les villes comme Kiryat Shmona ou Maalot, enfin, elles se vident. Des dizaines de milliers de personnes sont déplacées, parties, réfugiées. Il y a des destructions terribles partout, dans les exploitations agricoles comme dans les zones urbaines. Donc, c'est la guerre. Mais je crois que quand Stéphane Séjourné parle d'éviter la guerre, même s'il n'a pas choisi le terme judicieux à mon avis, ce qu'il entend par là, c'est qu'il souhaite éviter l'élargissement du conflit. Parce que pour le moment, Israël reste très réservé dans sa réponse, dans ses ripostes face à la guerre lancée par le Hezbollah. Et certains au gouvernement israélien sont bien tentés d'aller plus loin pour que le Hezbollah ne pense pas qu'il peut frapper à sa guise sans souffrir des conséquences graves. Il faut quand même dissuader ce mouvement terroriste de frapper encore plus fort et plus loin. Et donc c'est cette escalade que je suppose le ministre français souhaite éviter.
Il y a deux volets possibles dans cette escalade. Il y a l'escalade par rapport au fait que le Hezbollah est un groupe terroriste directement mandataire de l'Iran installé au Liban. Et puis il y a l'autre escalade, celle concrète, c'est que le Hezbollah est beaucoup plus armé que le Hamas.
Oui, beaucoup plus armé, beaucoup mieux entraîné, beaucoup plus incrusté sur le territoire, sur un territoire beaucoup plus large. Et en fait, il gangrène, il domine un véritable pays, alors que le Hamas en fait contrôle Gaza, un territoire restreint je dirais encastré entre Israël et l'Égypte. Le Hezbollah, lui, a réussi à prendre le contrôle d'un système d'État, d'un véritable État, le Liban, en tout cas un hôte que le parasite, le Hezbollah, a réussi à dominer et manipuler. Et donc, c'est pour ça que le Hezbollah est beaucoup plus dangereux. Il a des frontières que sont les frontières du Liban, n'est-ce pas ? Des frontières qui ne sont pas contrôlées avec la Syrie où les milices pro-chiites et l'Iran ont libre cours. Et évidemment, ils peuvent être fournis très très librement par l'Iran à travers cette frontière. Donc le Hezbollah, oui, est plus grand, plus dangereux et beaucoup plus nocif, non seulement pour Israël, mais pour la région tout entière. Tout le monde a vu comment il a transformé le Liban, tel un véritable parasite biologique, en une coquille vide, un pays qu'il manipule à sa guise. Et donc le véritable danger, c'est que ce cancer-là se propage.
Merci beaucoup Yigal Palmore, diplomate et directeur du département international de l'agence juive. Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Et on se retrouve tout de suite pour le journal de 8h avec la suite du programme. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 8h45 avant de retrouver l'émission de Frédéric Aziza, invité Yvan Attal. À tout de suite.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J.